Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le gestionnaire d'association libre Garadine, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi sous le thème Valeurs du libre, éthique de l'élu. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Labani, coordinatrice vie associative responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 16 novembre 2021. Nous sommes en train de réenregistrer le début de l'émission car nous avons malheureusement eu quelques petits soucis techniques lors de la diffusion en direct. Vous écoutez donc une rediffusion ou un podcast. Sachez que la qualité du sujet principal, au moins les premières, on va dire 15 minutes, sont de qualité. Voilà, la qualité n'est pas au top, n'est pas au mieux. Mais il y a une transcription disponible si vous souhaitez suivre le sujet tout en lisant, et après la qualité retourne aux standards normaux. Donc à la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, il y avait mon collègue Étienne Gonu qui est toujours là avec moi. Bonjour Étienne.
Salut.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer avec la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, aujourd'hui sur le thème « Valeurs du livre, éthique de l'élu ». Marie-Odile, bonjour, à toi la parole.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci Isabella. La transcription dont je souhaite vous parler aujourd'hui et que je vous invite vivement à lire ou relire est un réel coup de cœur. Les mardis du numérique éthique est un cycle de 3 tables rondes organisées par le pôle écolo de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'occasion des dernières élections régionales et départementales, l'objectif étant, je cite, de créer des échanges au sujet du monde numérique de façon à ce que ce sujet soit présent lors de la campagne. La première de ces tables rondes a eu lieu le 25 mai 2021 et était intitulée « Exemplarité de la région, le choix technologique, un choix politique ». La notoriété des personnes présentes à cette table ronde n'est plus à démontrer. Marie-Jo Kopp, Laurence Compara, Pascal Kuczynski et Jean-Marie Chausson. La table ronde commence par la question volontairement provocatrice de la part de l'animatrice, Anne-Sophie Trujillo-Gaucher. Le libre, c'est sérieux, ce n'est pas sérieux? Jean-Marie Chausson rappelle les différences entre logiciel propriétaire, boîte noire dans laquelle on ne peut pas aller voir ce qu'il y a, dans laquelle des portes dérobées permettent l'intrusion de virus informatiques, et logiciel libre dans lequel on peut vérifier que tout fonctionne car le code est ouvert. Alors franchement, dit-il, ce ne serait pas sérieux d'utiliser du logiciel libre? Un logiciel plus sûr que le logiciel propriétaire? Nous devons retenir plusieurs maîtres mots. Mutualisation, mais une mutualisation en amont. Plusieurs collectivités se mettent autour de la table, projettent de développer un logiciel ou simplement une fonctionnalité qui correspond à leurs besoins mais qui manque. Ces collectivités font appel à des entreprises dont c'est le métier de développer et qui acceptent de faire un produit sous licence libre. Le prix est supporté par l'ensemble des collectivités, le codeur est payé, tout travail mérite salaire, mais il est payé une seule fois. On ne crée pas de rente de situation où le jackpot est énorme, comme dans le cas du logiciel propriétaire. Si on n'a ni le temps ni les compétences en interne pour ce développement, on fait appel à des prestataires de son territoire. En termes d'impôts, ces entreprises locales vont payer une taxe professionnelle qui reviendra à la commune. Leur rémunération, c'est de l'argent qui va circuler sur le territoire. Les gens pourront rester sur place grâce à ce travail. Leurs familles utiliseront les services publics locaux. On met ainsi en place des cercles vertueux. On crée de l'emploi local avec des projets économiques en lien avec le territoire. Dans le cadre de cette mutualisation, la notion d'interopérabilité reste primordiale. Les différents modules informatiques réalisés doivent pouvoir communiquer. On peut ensuite envisager sur chacun d'eux le développement de besoins qui ne sont pas encore couverts. Cette fonctionnalité, ce logiciel, est alors mis à disposition de la communauté. Donc partage. La collectivité peut partager à l'ensemble des partenaires de son territoire, autres collectivités, entreprises, associations, mais aussi ses concitoyens, ce qui a été conçu. Le logiciel ainsi distribué peut servir à d'autres métiers, d'autres professionnels qui pourront à leur tour l'améliorer. Il y a alors un effet boule de neige. Grâce à cette démarche de partage, d'ouverture et de transparence, on développe ainsi un bien commun logiciel, un commun de la connaissance. Les administrations se numérisent de plus en plus. Cependant, de nombreux citoyens sont coupés du numérique, ce qui veut dire potentiellement rupture d'accès aux services publics, perte de droits, rupture d'égalité. Les élus doivent être conscients que derrière les enjeux techniques qui existent, existent de vrais enjeux politiques dans leur approche du numérique. Leur devoir est de faire un choix dans lequel l'intérêt général doit primer. Laurence Compara énumère les questions que l'élu doit se poser concernant la souveraineté numérique. Est-ce que j'ai la main sur les données que mes administrés me confient pour mes missions de service public? Est-ce que je les ai externalisées dans un cloud à l'étranger, à une firme qui va en faire je ne sais quoi, les filer à je ne sais qui? Est-ce que je peux garantir à mes administrés que je protège leurs données, que j'aurai toujours la possibilité de rendre le service public sans que des solutions me soient coupées? Marie-Jo Kopp, dont le métier est l'accompagnement de migration vers la suite bureautique LibreOffice, détaille les éléments qui font qu'une migration se passera bien, sera réussie. Elle insiste particulièrement sur l'implication de ce qu'elle appelle le triptyque gagnant que sont les élus, le service informatique et la direction. Il faut une vraie volonté de la part des élus, un projet expliqué à la communauté, accepté, une communication à outrance afin de rendre visibles tous les enjeux, avec un vrai budget à mettre en face. Il faut convaincre le service informatique qui souvent travaille avec, voire est prisonnier de tel ou tel éditeur et ne souhaite pas changer ses habitudes. Mais quel sera le coût de sortie d'un logiciel propriétaire lorsque la collectivité voudra reprendre le contrôle de son système d'information pour retrouver une certaine autonomie et devenir maître de son destin numérique? Il faut impliquer la direction, qu'elle soit exemplaire, que les managers soient les premiers formés. Cependant, Marie-Jo Kopp nous met en garde. Ce changement vers le libre ne doit pas découler d'un enjeu financier. Dans un projet de changement bureautique, il n'y a pas d'économie à court terme. Par contre, il y a un glissement des budgets. L'argent qui était destiné à payer des licences, les fameuses rentes de situation, qui était versé à un géant américain, est investi dans de la formation. La plupart des personnes se sont formées à l'informatique sur le tas. En les accompagnant au moment de la migration, on en profite pour préciser leurs besoins, faire de l'acculturation numérique, par exemple autour de la sécurité informatique, autour du RGPD, le règlement européen pour la protection des données. Des évolutions des logiciels pourront aussi être envisagées, facilitant ainsi le travail des agents et des agentes avec, au final, une amélioration de la qualité du service rendu. Quand on est élu, le bon usage de l'argent public fait partie du cadre légal à respecter. Investir dans de la formation permettra aussi à l'agent de participer à ses nouvelles compétences avec son entourage. Le libre devient ainsi un projet émancipateur. Donc enjeu de mutualisation, de partage, d'ouverture, d'égalité, d'inclusion, de bonne utilisation de l'argent public, ce sont les valeurs à retenir. Avec la dématérialisation des services publics, de nouveaux besoins logiciels sont apparus. Pascal Kuczynski, délégué général de la DULACT, association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les administrations et les collectivités territoriales, affirme qu'avec ce développement mutualisé entre collectivités, le logiciel libre, en compétition et sur la même ligne de départ que le logiciel propriétaire, est systématiquement gagnant, au bout du compte, pour couvrir ses besoins. Il reste cependant quelques soucis, par exemple avec les logiciels métiers. Une des raisons pour lesquelles la ville de Grenoble avait fait le choix de basculer en premier ses écoles sous GNU Linux, c'est justement l'absence de contraintes dues à ces logiciels métiers. De plus, tout commence à l'école, donc les collectivités qui ont respectivement en charge l'équipement des écoles, des collèges et des lycées se doivent de faire ce travail proprement et en priorité. Dans le budget des collectivités, un problème de ligne comptable concerne la distinction entre les produits qui sont de l'investissement et ceux qui sont du fonctionnement. Quand on paye une entreprise qui développe un logiciel libre, un commun numérique, il s'agit bien d'un investissement. Cette dépense n'est pas à imputer au fonctionnement, donc affaire à suivre. Une inquiétude concerne ce que l'on appelle la Smart City, la ville intelligente. De nombreux fournisseurs vendent aux collectivités des objets connectés, des systèmes complets pour gérer des poubelles, pour gérer l'éclairage, sauf que ces fournisseurs travaillent en silo, tout en utilisant les données de la collectivité, avec un manque total d'interopérabilité. Que se passera-t-il le jour où il s'avérera nécessaire? On ne sait pas encore pour quel motif, mais ça viendra, de faire communiquer entre eux ces systèmes. Pour Laurence Compara, quand on s'engage en politique, on a évidemment une vision idéologique, un projet pour la société. Considère-t-on qu'on est dans une démarche de commun de la connaissance ou que ce que les uns et les unes vont concevoir va pouvoir être réutilisé librement par d'autres, va pouvoir être amélioré? Est-on dans une démarche d'ouverture, de transparence? Est-on dans un rapport au monde basé sur ces valeurs-là? Ou est-on dans une logique capitaliste, propriétaire, verrouillée? Partager, mutualiser, interopérer, inclure, optimiser les coûts, retrouver autonomie et souveraineté, ce sont les valeurs du libre que nous connaissons bien à l'April, et qui doivent désormais faire partie de l'éthique de tous nos élus. Vous retrouverez le lien vers cette transcription sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui. Merci au pôle écolo de la région Rhône-Alpes qui a organisé cette table ronde. Merci aux intervenants et intervenantes.
Merci Marie-Odile pour cette chronique. C'était la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi sur le thème Valeur du livre, éthique de l'élu. Une chronique inspirante et on espère bien qu'elle puisse inspirer d'autres collectivités. Merci Marie-Odile et à la prochaine chronique.
Entendu, à la prochaine. Au revoir.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter Whatever Comes My Way par Vienna Ditto et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
The day is getting on. Rocket traders pack away their way. The hour's been and gone. I listen for your footfall on the stairs. I'll never hear your voice. Call up to me again. And love is an addiction that makes beggars of us all. And I shall take whatever comes my way. My restless eye, but though
winter comes to stay. And love is an addiction that makes beggars of us all. And I shall take whatever comes my way.
Nous venons d'écouter Whatever Comes My Way par Vienna Ditto, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous! Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Aujourd'hui, le sujet principal de l'émission est consacré aux gestionnaires d'associations libres. Garadine et que nous allons en parler avec nos invités qui sont Boaz, développeur de Garadine, Isabelle Dutaï, contributrice de ce logiciel, et Zerlon, bénévole à l'association Oasux. Donc l'échange sera animé par Laurent Costistic, administrateur de l'April, qui est avec nous au studio. Bonjour Laurent. Et il faudra d'abord vérifier si nos invités sont connectés à distance. Je ne sais pas si ça a été fait. Etienne, peux-tu me dire si la conférence téléphonique est bien... activé.
Je vais m'y connecter, brancher les micros de que
d'accord.
Laurent et Isa puissent s'exprimer librement. Je vais essayer de connecter le plus
possible. Merci beaucoup Étienne. On a avec nous au studio donc Laurent qui anime l'échange et aussi Isabelle Dutaï, contributrice de Garadine. Donc je vous propose de commencer l'échange avec vous.
Bonjour Isabelle. Alors effectivement le direct, c'est exactement ça. Quand on est de l'autre côté de l'écran ou de la radio, on ne se rend pas compte, mais effectivement, c'est parfois un peu compliqué. Il y a beaucoup de boutons, beaucoup de couleurs, et voilà, regarde ça brille, joli, ça fait un peu sapin de Noël, mais parfois quand même, ça bloque. Bonjour Isabelle, contente de te recevoir ici, malgré les conditions. Puis on va donc pouvoir peut-être commencer à échanger sur Garadine, qui est donc un logiciel de gestion d'association, que toi, tu as eu l'occasion à la fois de pratiquer, mais aussi, évidemment, pour lequel tu as contribué.
Tout à fait, oui. Alors,
la première question qu'on s'était donnée pour essayer d'éclairer un peu les gens qui nous écoutent, c'était pourquoi Garadine, quelles avaient été les motivations initiales de ce projet-là. Alors, je sais que c'est José qui souhaitait en parler, mais tu souhaites peut-être nous éclairer.
Eh bien, à l'origine, je crois Boaz qui va venir avec moi, parce que c'est comme lui, c'est quand même son bébé. C'était une association d'un atelier de vélo à Dijon qui s'est dit on a besoin de gérer notre association. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de logiciels libres, enfin, de logiciels de gestion d'association. Il y en a beaucoup plus maintenant, j'ai vu. Il y avait Galette qui était complètement arrêtée. Donc ils se sont dit on va faire le boulot. Et c'est démarré comme ça. Et donc, c'était en 2011. Il s'était annoncé en 2012 au RMLL. Alors, je ne sais plus où c'était d'ailleurs à l'époque. Mais,
ouais, je peux pas l'aider parce qu'il y en a, il y a eu plein de RMLL.
Il était annoncé à cette époque-là. Et donc, voilà. Et depuis, je peux dire, parce que je suis dans le projet à peu près le mois de mars, c'est que ça bouge.
Ça bouge.
Très bien. Je veux dire, ça continue à bouger depuis, mais tout le temps.
D'accord. Et du coup, l'association de vélo à Dijon, c'était en Rustine ?
Oui.
Bien ça ? C'est ça. Oui. On peut leur faire la pub au passage. Hein. C'est pas... En fait, j'habitais pas très 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 loin de la Rustine, ni voie très située. Mais voilà, c'est le plus grand des hasards. Mais donc, du coup, c'est pour ces besoins d'une association de recyclage de vélo, finalement, c'est le cas de le dire. Pour ces besoins-là, il a été décidé de développer soi-même donc, un logiciel qui permettait de faire finalement.
Alors, il y a plusieurs choses, mais il y a surtout deux points forts. C'est-à-dire, on peut gérer les membres de l'association, les adhésions, les inscriptions aux activités diverses, et faire la compta. Et ça, c'est les deux sont liés. C'est hyper important. En plus, on peut avoir un site, peut avoir des documents internes. Ça, c'est en plus. Enfin, je dirais, mais fondamentalement, au départ, c'est surtout là qui est extrêmement important.
Qui a motivé la création du logiciel, d'accord.
Oui, oui.
Et alors, parce que je me suis fait aussi à pas mal d'associations, il y a une forme de souplesse dans l'adhésion, ou finalement, c'est des adhésions de date à date.
Ah oui, alors, sur les adhésions, on a un système qui s'appelle les activités, et derrière, on a des tarifs. Alors, une activité, ça va être, par exemple, la cotillon. Mm-hmm. La cotisation va être des tarifs différents, qui peuvent être basés fixes, libres, ou basés sur un calcul, or un calcul de revenus, par exemple. Voir, parce qu'on a des associations qui sont des associations, on va dire ça, des petites gestions de copropriété, ça peut être un calcul de quantième, par exemple. Et donc, ça peut être soit ponctuel, soit de date à date, soit sur une année. Donc, en fait, il y a un choix qui est déjà au départ, on ne s'est pas figé. Quand on vous crée le tarif, on va, à un moment donné, dire c'est temps, c'est calculé, ou c'est de cette façon-là, et c'est sur telle période. Par contre, effectivement, tous les ans, un tel tarif, c'est valable en exercice.
Alors, je fais bien la distinction, et je trouve que du coup, tu values pour Radine. Je fais bien la distinction entre adhésion, j'adhère au projet politique de l'association, hein, ça dépend des associations, mais souvent c'est 10 euros de l'adhésion. On a récupéré peut-être, on me fait savoir qu'on a récupéré Boaz et puis José. Donc ils vont prendre la conversation. On termine sur la question des cotisations, puis comme ça on va pouvoir reprendre un peu le fil des questions pour essayer de ne pas perdre trop les auditeurs et les auditrices. Donc du coup, effectivement, il y a la question de l'adhésion à l'association. On paye 10 euros par an, 15 euros par an. Et puis effectivement, quand on est en capacité, ou quand le logiciel est en capacité de gérer la cotisation pour l'activité, et s'il y a plusieurs activités, c'est une force du logiciel que de pouvoir justement prioriser en fonction de l'activité de l'association. Donc je trouve que c'est finalement deux fonctions différentes. Parce que je crois qu'à l'époque, Galalette ne gère que l'adhésion finalement. Hein. Voilà, c'est un positif, je pense, à retenir pour Garadine. Alors on va dire bonjour à Boaz et à José. Je ne sais pas s'ils nous entendent.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je sais que vous êtes là, je pense que Boaz peut vous saluer.
Bonjour, je suis là.
Bienvenue tous les deux. Alors effectivement, excusez-nous pour les conditions aujourd'hui, voilà, on enchaîne les problèmes techniques, ça commence à revenir a priori, mais déjà vous êtes là, très bien. Alors je vais commencer à échanger avec Isabelle par rapport à Garadine. Alors je vais prendre la question parce que c'est vrai qu'elle s'adresse plus à Boaz ou à José sur la motivation initiale. On a un peu parlé de la ruine à Dijon. Peut-être que Boaz, tu peux compléter
Sur qui j'ai.
Alors, pardon, sur les deux. Pour Garadine, et quelles ont été les motivations initiales quelles ont été les motivations au développement de ce projet?
Tout simplement, oui, c'était pour les besoins de notre association, donc un atelier de réparation de vélos associatifs à Lyon, donc où on apprend aux gens à réparer le vélo, et donc à cette époque-là, en 2011, on a trouvé de logiciels qui convenaient, notamment parce que Galette, à cette époque, n'était développé. C'est seulement quelques mois plus tard que Jean a repris le développement de Galette. Et donc voilà, on cherchait une solution assez simple qui nous permette de faire de la compta, sachant qu'on n'avait aucune expérience en compta. Et on cherchait aussi à lui permettre de gérer les membres et aussi le site web. Donc là, moi j'ai commencé à développer ça pour nos besoins et après ça a pris un peu plus d'ampleur.
Du coup, on se rend compte évidemment quand on est utilisateur, simple utilisateur type de logiciel, mais on dit bien que c'est un travail assez colossal, partir de zéro. Est-ce que vous êtes vraiment parti de zéro ou est-ce que vous avez regardé ce qu'il se faisait? Donc tu évoques galère, mais comment a été pensé le logiciel?
Moi j'avais fait le tour de toutes les questions, que ce soit solution libre ou propriétaire à l'époque. Et donc j'avais un peu vu ce que je voulais. Parti de zéro, et avec un focus sur la simplicité d'utilisation, vraiment, pour que ce soit le plus accessible possible, le plus simple.
Très bien, merci. Est-ce que José, tu veux compléter? Quand est-ce que tu as rejoint l'aventure?
Alors, merci de l'invitation. Je suis pas de l'équipe, comme un gardien, je suis de Oisux. On est un GUL et j'ai juste fait la promotion.
Alors, excuse-moi, José, je te coupe. Il faut que tu expliques ce que c'est qu'un GUL, même si on l'a déjà dit dans les émissions précédentes. Il faut que tu nous l'expliques.
D'accord. C'est un groupe. Alors, ça veut dire l'acronyme des groupes d'utilisateurs Linux. Mais en fait, ce sont des gens qui s'occupent de logiciels, qui font la promotion et engagent la pratique des logiciels libres de source. Comme l'ai-je juste Garada.
Merci.
Et donc comment j'en suis pas moi ainsi que les gens de Oisux contributeurs. Et par exemple, notre comptable, Jacques, avec le passe le bureau ainsi que toute l'équipe Oisux, utilise Garada. Moi-même, je suis trésorier d'une autre association et j'ai le Garada. Le complément que je voudrais apporter par rapport à ce témoignage, j'essaierai de ne pas être trop long, c'est que j'ai une expérience dans le monde associatif, donc comme trésorier, comme secrétaire, comme président. J'ai toujours été traumatisé par les trésoriers. Les trésoriers et les comptables, que ce soit en association, que ce soit ou entreprise. Et je dis ça pour justement bien engager le sujet par rapport à l'intérêt de Garada. Et donc, j'ai souvent rencontré des comptables, des trésoriers qui étaient un petit peu dans leur tour d'ivoire et qui imposaient un petit peu leur temps et parfois même qui mettaient énormément de temps dans les réunions, même au détriment de nos actions. Et justement, Garada, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour ça. C'est que ça permet justement, même à des non-initiés, alors il y a peut-être même un minimum à connaître comptabilité, mais c'est justement à des non-initiés de pouvoir s'approprier la gestion comptable d'une entreprise, voire même la gestion des membres, etc., tout en concentrant justement sur ce côté extrêmement ouvert, pratique, enfin, etc., communiquant, puisqu'on veut partager les informations. Et donc, dans l'esprit de Garada, je trouve que c'est à ça. C'est vraiment très, 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 très bien. Merci.
Alors, merci pour cet éclairage. Je vais juste me tourner vers Boaz, mais je crois bien qu'on dit Garada et non pas Garada. Je dis une bêtise, là.
Non, c'est tout à fait ça. C'est Garada, c'est un qui vient d'un dialecte origène d'Australie. Qui veut dire argent, tout simplement.
D'accord, donc on va dire Garadine jusqu'à la fin du geste, ce sera plus simple pour donner le vrai ton et la vraie sonorité. Merci pour cet éclairage aussi. Alors, on commençait à parler des finalités tout à l'heure avec Isabelle, quand on a entamé le sujet. On a parlé de la gestion des membres, de la gestion des cotisations, de la gestion de l'adhésion. J'ai jamais évoqué la question de la comptabilité. Est-ce que Garadine fait autre chose? Et puis éventuellement, que vous pouvez détailler ses fonctionnalités. Je sais pas qui c'est qui veut prendre la parole sur ce sujet.
Moi, je peux faire un petit tour rapide, mais c'est vrai que c'est l'idée, c'est de répondre à la majorité des besoins d'une association. Principalement, effectivement, la gestion des ensuite des cotisations, des inscriptions aux activités, la comptabilité, le site web. Donc il y a un petit CMS intégré donc qui permet de gérer le site web, des articles, des catégories, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un peu de documents, c'est-à-dire qu'il y a toute gestion de fichiers, on peut partager des documents de l'association, bah, c'est pareil, sous forme de répertoire. Donc nous, c'est ce qu'on sert, c'est ce qu'on utilise à la Rustine pour partager des documents entre nous. Mais du coup aussi, il y a aussi des extensions à rajouter en plus qui pour des besoins spécifiques. Donc par exemple, pour nous, on a une extension pour gérer notre stock de vélos d'occasion. On a une extension pour gérer les caisses informatiques. Donc on a une extension qui permet d'affiler les horaires d'ouverture sur le web et une extension qui permet de prendre des rendez-vous pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps à l'atelier. Donc les gens, ils peuvent réserver directement sur le site web leur créneau.
D'accord. Alors moi, ce que je trouve intéressant aussi, évidemment, et ça, c'est une approche qui pour les petites associations est primordiale, c'est que ce soit modulaire et que justement, on peut recommencer avec un garadine finalement assez épuré, avec les fonctionnalités les plus basiques possibles, et puis au fur et à mesure des besoins de l'association, bah, consolider, étayer avec des notionnalités, avec l'extension que tu évoquais.
Tout à fait. D'ailleurs, en plus, on peut n'utiliser qu'une seule fonction de garadine. On n'est pas obligé d'utiliser l'autre. En configurant sa catégorie de membres pour donner accès qu'à une seule fonctionnalité. Les autres fonctionnalités, ça reste une de celles. Donc, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai des associations, ils n'utilisent que la fonctionnalité site web. D'autres qui n'utilisent que la comptabilité. Et du coup, à ce moment-là, on n'est pas obligé de tout activer.
Oui, ça, je trouve ça extrêmement précieux. Hein. Pour avoir refrotté à des toutes petites associations, quand on leur met des outils type des SP, alors ce qu'on dit, c'est des progiciels de gestion intégrée, hein, qui effectivement potentiellement peuvent agréger énormément de fonctionnalités. Quand on les met face à ce type d'outils-là et qu'on leur l'ensemble des fonctionnalités présentes devant les yeux, elles sont complètement perdues et puis évidemment, on les perd très vite. Je trouve que cette approche modulaire, par étape, elle est extrêmement intéressante pour des toutes petites, enfin des petites associations et plus grosses. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux compléter. Est-ce que cette expérience concrète de format sur petites associations et avec Garadine, est-ce que tu peux nous faire
part? Non, avec Garadine, non, j'ai pas ce genre d'expérience. Moi, j'ai simplement l'expérience de m'être auto-formé en rentrant pour écrire l'aide. Et alors, je vous ai tout à l'heure parlé de la compta. Bon, comme je suis indépendante, il y a quelques années, j'avais une comptable, qui était très sympathique. Mais j'ai eu une formation en compta qui était... pour moi, j'avais rien compris. Donc, il a fallu écrire des pages d'aide, non seulement sur l'utilisation du logiciel, mais c'est sûr, parce que je me mets dans la tête des associations qui débarquent, des gens qui débarquent. La compta, c'est pas leur truc. Pas le truc de... Donc il a fallu que je me forme aussi là-dessus pour écrire pour Garadine, pour l'aide. Et en fait, le logiciel est très très simple à utiliser. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de comprendre la compta à partir de là. Puisqu'une fois qu'on avait tout mis en place, enfin, une fois qu'on sait comment fonctionne le logiciel, bah, après tout vient. Il y a quand même des trucs difficiles. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre des pages pour les trucs les plus compliqués, par exemple. Enfin, les plus compliqués. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui débarque sur Garadine, une association qui jusque-là avait géré son association à l'aide d'un tableur, il faut même expliquer deux, trois trucs. Il faut expliquer, par exemple, ce qu'on appelle la balance d'ouverture, dire comment mettre dans le logiciel Garadine l'argent qu'on a en banque. Ça, c'est un problème qu'on a déjà retrouvé. Je l'ai déjà retrouvé dans les appels de plus d'une fois. Donc, ça, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça facilite la compta.
Effectivement, c'est la question du transfert des comptes d'un autre logiciel, ou soit d'un tableur, parce que toutes petites associations comme ça. Mais donc je vais essayer de reprendre. On a essayé d'expliquer pourquoi il y avait eu Garadine de développer. Donc Boaz nous a expliqué que finalement dans son association de vélo à Dijon, ils avaient regardé ce qui existait. Alors à cette époque-là, il existait le logiciel libre Galette, qui aurait pu répondre aux besoins, mais qui n'était plus développé. Donc c'était prendre un risque de s'engager avec un logiciel qui n'était plus développé. Donc après avoir regardé un peu tout ce qui existait, ils se sont dit qu'ils allaient retrousser leurs manches et puis développer un logiciel de gestion d'association. Hein. Donc ça veut dire à la fois la question de la comptabilité, la question de la gestion des adhérents, la question des cotisations, des adhésions. On a fait la différence entre les deux avec Isabelle.
Et la communication de l'association.
Alors, Alors tout à fait, on a complété, alors ça c'était les premiers éléments qu'on a évoqués, mais Boaz a complété avec le fait qu'il y avait un CMS d'intégré, c'est-à-dire que, alors en anglais CMS Content Management System, c'est-à-dire un petit logiciel qui permet d'éditer facilement un site web. Donc ça c'est aussi assez précieux parce que la question de la communication reste une question récurrente dans le milieu associatif.
Et la communication interne aussi, via les documents, il y a une fonctionnalité qui est très simple de saisie de fichiers texte. On peut écrire un texte collaboratif. Alors c'est très simple, hein, mais c'est déjà pas mal. Oui. Notamment pour saisir une réunion en cours de réunion, saisir la compte-rendu de réunion.
Tout à fait. Alors c'est effectivement des fonctions qui sont précieuses, même si elles sont basiques, parce que ça permet de collaborer vraiment de manière efficace au sein de l'association. On a parlé aussi des extensions qui pouvaient exister. Donc l'association de la Rustine à Dijon a aussi une extension qui lui permet de gérer son stock de vélos d'occasion.
Et alors, je vais dire peut-être un mot un peu compliqué, mais il y a deux choses. Il y a le logiciel Garadine et il y a l'instance Garadine, qui est donc le service où on peut utiliser Garadine, puisque c'est un logiciel, ça on l'a pas dit, c'est un logiciel en ligne. Donc ce qui est aussi pratique, parce que pour les associations, ça évite d'avoir des gens qui doivent aller dans un local pour saisir la compta, on peut la faire un petit peu de partout, la compta ou la gestion des membres, ce genre de choses. Donc on a intégré trois extensions. Qui sont Taïma, la gestion du temps pour les bénévoles. Ça, c'est vraiment bien. On a une petite qui permet de réserver des... Alors, j'ai un peu oublié le nom. Ça doit s'appeler réservation. Qui peut permettre de réserver un créneau d'activité, mais un seul. Hein. Donc, c'est très simple, mais bon... Et une troisième qui vient d'arriver, qui est les stats du site, parce que tout le monde voulait savoir comment le site était utilisé. Sachant que, mais je crois qu'on y reviendra par rapport au RGPD, donc au règlement général de la protection des données, sachant que les statistiques sont très simples, hein, c'est le nombre de pages vues, c'est tout, on ne sait pas d'où les gens viennent, on ne sait pas à partir de quel ordinateur, etc. Et ça, on s'en fiche. On ne connaît pas leur trajet, non, c'est vraiment la base.
On respecte les utilisateurs et les utilisatrices chez Garadine.
Voilà. Et donc, ces extensions, elles sont intégrées, on peut les activer ou non.
Très bien. Merci. Alors, ça complète effectivement, hein, ça montre à quel point le logiciel peut être complet. Alors, du coup, je prends conscience de l'existence de la gestion du temps pour les bénévoles. Ça m'intéresse particulièrement, ayant un lien fort avec Bénévalibre. Libre. Et je crois que des discussions, des questionnements sont en cours sur des liens qui pourraient être faits avec Bénévalibre, Libre, logiciel libre qui permet aussi de faciliter la valorisation du bénévolat dans l'association. Donc voilà, oui, ça fait partie des modules que je trouve extrêmement intéressants pour justement montrer tout ce qu'il y a à voir dans les associations et ce qu'on met rarement assez en valeur. Quoi, de mon
point de vue. C'est surtout que c'est une obligation légale maintenant de faire figurer ça dans la compta de l'association depuis 2020.
Voilà, alors Isabella peut peut-être intervenir sur ce sujet.
Alors, je me suis vraiment... j'ai étudié les textes, parce que je ne connaissais pas. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des associations qui reçoivent en fait des subventions ou des dons à au moins 153 000. Donc, c'est un chiffre, ça c'est décidé par décret. Et ces associations, en fait, elles ont l'obligation de publier leur compte. Et après... il faut qu'ils mentionnent en fait les prestations en nature, donc le bénévolat. Elles sont pas obligées forcément de le monétariser s'ils ont pas les moyens pour le faire, mais si c'est le cas, ils doivent quand même dire quelle est l'importance, la nature de ces prestations dans l'annexe, qui est un document obligatoire quand on publie ses comptes. Donc l'obligation de publier les comptes et puis de mentionner quelle est la nature, l'intérêt, le rôle des prestations en nature. Et si elles sont en mesure de les monétariser, de les valoriser de cette façon.
Alors, par rapport au. Parce que j'ai quand même un tout petit peu lu le plan comptable de associatif 2018. En fait, à partir du moment où une association est assujettie à ce plan comptable associatif, alors là, on ne va pas énumérer les critères parce que. Enfin, l'un des critères principaux, c'est recevoir des subventions publiques. elles doivent faire figurer ce genre d'éléments à condition que le bénévolat soit important dans le travail de l'association.
Si c'est, il faut que ça caractérise l'association, qu'il se soit vraiment
voilà.
Pour... Mais,
tout à c'est fait. Pas une question de montant, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment une question de...
Alors, si, parce qu'en fait, c'est pas forcément les... En fait, c'est les associations qui sont soumises obligatoirement à utiliser le plan comptable. Donc, effectivement, ça rejoint ce que dit Isabella, c'est que il faut que l'association ait un certain montant de subvention pour être obligée d'utiliser le plan comptable d'une certaine manière. Et en dessous de ce montant, l'association fait un peu ce qu'elle veut. Hein, donc,
Je suis un petit peu d'accord. Et de toute façon, ce montant de 153 000 euros rejoint aussi la nécessité d'avoir un commissaire aux comptes. Et souvent d'ailleurs, le commissaire aux comptes, il a dans ses missions la nécessité de pointer finalement quelle est la hauteur du bénévolat dans l'association. Voilà. Donc les toutes petites associations, les très petites associations n'ont pas des contraintes fortes vis-à-vis de ça. Moi, je persiste à penser que c'est important autant que possible de le faire parce que vis-à-vis des partenaires, bah, ça permet de dire, mais regardez, c'est pas que votre subvention finalement qui fait vivre l'association, il y a aussi tous les bénévoles. Voilà, c'est un point
qui
me semble.
Souvent, c'est les financeurs publics qui vont demander aussi ce genre de documents, même pour des associations avec beaucoup moins de subventions.
Tout à fait. On va en clore cette question peut-être du bénévolat, hein, puisqu'on on s'écarte un tout petit peu du sujet, quoique. Moi, je pense que c'est important d'en parler pour les associations. je voulais revenir, alors, avant qu'on soit interrompu par les problématiques techniques, on était en train d'évoquer la question de la comptabilité dans l'association. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, et je trouvais très très juste la remarque de Boaz tout à l'heure, disant, mais le problème c'est ou Isabelle, je sais plus, le problème c'est ces comptables, enfin ces trésoriers qui sont dans leur tour d'ivoire et puis qui ont du mal à partager. C'était José, bah, pas de chance, c'était la troisième personne. Merci.
C'est pas grave.
Donc effectivement, une des difficultés finalement dans les associations, c'est le partage de cette information-là. Donc en tout cas, moi j'ai tendance à penser que Garadine peut faciliter ce partage d'informations. Chacun peut accéder à ces informations-là, chacun peut être formé à cette question-là, donc ça rend plus simple la visibilité des comptes de l'association. Alors du coup, j'allais renverser un peu la question vis-à-vis de Boaz. Ça veut dire que non seulement tu dois avoir des compétences de développeur informatique, ce qui n'est pas quelque chose de simple et qui s'acquiert en un jour, mais en plus finalement, tu dois avoir quand même compris les bases de la comptabilité pour pouvoir développer un logiciel comme Garadine.
Alors, moi je suis pas du tout comptable à l'origine. J'ai découvert la compta en même temps que le développement, et donc voilà, en fonction des retours que me font les gens, c'est comme ça que le logiciel évolue aussi. Et donc voilà, mais c'est pas un logiciel professionnel, mais c'est pour l'instant là on commence à avoir pas mal de grosses assos, des syndicats, etc., qui utilisent avec des experts comptables et des commissaires aux comptes, et pour l'instant les retours sont assez bons, donc c'est l'objectif est atteint.
D'accord, donc même les commissaires aux comptes, finalement, ont validé, enfin, les experts comptables ont validé des comptabilités d'associations avec Garadine. Donc ça, je trouve que c'est quand même éloquent et démonstrateur de la qualité du logiciel.
Tout à fait.
Bon, bah merci, c'est une bonne nouvelle.
La fiabilité.
Oui, la fiabilité, bah oui, parce que des commissaires aux comptes, moi, c'est pareil, j'avais essayé un logiciel libre de comptabilité qui s'appelle Noalis désormais. Il a fallu négocier, mais ça avait fini par fonctionner. Le commissaire aux comptes avait aussi accepté. Mais quand on leur disait logiciel libre, ils étaient un peu craintifs. Et ça me permet de faire du coup la transition sur le logiciel libre et la licence du logiciel. Alors pourquoi avoir choisi une licence libre pour Garadine ?
En fait, ça fait très longtemps que je fais du libre. J'ai commencé l'informatique avec Linux et ce genre de choses. Donc je viens de cette culture-là, j'ai fait de l'art libre. Tous les logiciels que j'ai fait, tout le code que j'ai fait, ça a toujours été du libre, à part en entreprise. Donc pour moi, c'était le choix logique.
D'accord. Et alors, est-ce que quelqu'un, un ou une d'entre vous peut rappeler pour les auditeurs, même si on le fait régulièrement à l'antenne, rappeler ce qu'est un logiciel libre ?
Donc, un logiciel libre, c'est...
Merci Isabelle de te désigner.
C'est un logiciel dont on peut accéder aux sources desquelles, c'est-à-dire au code duquel on peut accéder facilement. Et qui n'est pas sur lequel il n'y a pas une notion de propriété. Donc ce code, on va pouvoir le voir, on va pouvoir l'examiner, voir s'il est bon, et on va pouvoir le modifier, on va pouvoir y participer. Et alors je dis ça, on se dit oui mais attends, ça c'est rien que pour les développeurs, les gens normaux, gna gna gna. Je peux donner un exemple qui n'est pas Garadine, mais et qui m'est personnel, mais bon, sur la suite LibreOffice. Donc la suite bureautique LibreOffice, c'est aussi un logiciel libre. Et il y a des choses comme par exemple des palettes de couleurs dans LibreOffice. Et moi, je me suis mise à faire des trucs avec ces palettes de couleurs, à faire des palettes de couleurs, rédiger des tutoriels là-dessus. Donc c'est intervenir un petit peu sur le code, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, et tout ça, et j'ai réalisé que c'était un truc que je n'aurais jamais pu faire avec une suite bureautique complètement propriétaire. Et donc d'où l'intérêt du logiciel libre, c'est que ça permet en fait d'avoir non seulement de l'utiliser, de l'installer comme on veut, le nombre de fois qu'on veut, où on veut. Garadine peut être installé sur n'importe où, après tout les gens peuvent ou pas.
Et donc modifié, du coup ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si plusieurs personnes veulent accéder à la comptabilité, finalement ils peuvent aussi l'installer aussi de leur côté, triturer. Enfin voilà.
Et là où c'est hyper porteur, on va prendre justement reprend l'exemple de la comptabilité, c'est que il n'y a pas de fonctionnalité pour l'instant de budget prévisionnel dans Garadine, mais il y a quelqu'un qui a développé une requête SQL mouse, enfin quelque chose de très très...
Un langage informatique pour ceux qui ne
connaissent
pas.
Voilà, à partir donc, qui va chercher les données donc, dans la compta de Garadine, qui nous l'a donné, ce qui fait que, enfin du coup, bah, j'ai rédigé une page d'aide pour dire comment ça fonctionne. Et du coup, on a cette fonctionnalité qui s'ajoute. Alors, c'est pas aussi bien, c'est pas un truc presse-bouton, mais... Une fois qu'on a intégré la requête là où il faut dans le logiciel, on peut l'utiliser. Et je crois que ça, c'est un truc que permet le logiciel libre, mais que ne permettrait pas un logiciel qui n'est pas libre. Ça, ça fait partie des grandes qualités. Et je voudrais aussi rajouter un truc, un commentaire d'un développeur de jeu qui se posait la question. Il a reçu, c'était un Américain, je crois, et sur ses jeux, il comprenait pas parce qu'il avait reçu énormément de rapports de bugs de gens qui sont sur Linux, et très peu de gens, et alors qu'il n'y avait que 3 bugs spécifiques à Linux. Et en fait, la conclusion, et on en a réfléchi sur le site LinuxFR, par exemple, bah, c'est qu'en fait, quand on utilise des logiciels libres, et Linux est un système d'exploitation libre, on est, je dirais pas formé, mais on pense plus, on sait comment, enfin, on sait comment, où rapporter un fonctionnement ou un dysfonctionnement, et voir, on peut même être capable de dire, ben oui, mais là, on pourrait peut-être faire comme ça, proposer des solutions. Et ça, c'est typique au logiciel libre. Parce que vous, je sais pas, mais moi, je sais, quand j'étais sous Windows ou etc., d'abord, je sais pas où j'aurais pu rapporter un bug, et ça me serait même pas venu à l'idée.
Comme on a un bien commun, on est évidemment encouragé, enfin naturellement encouragé à contribuer, puisque finalement, si on rapporte un bug, ça va améliorer le logiciel pour l'ensemble des personnes, donc pour soi, mais aussi pour les autres. Donc c'est vrai que c'est une vraie vertu du logiciel libre. Donc ça permet.
On parle de communautés autour des différents logiciels, des communautés qui se forment de plein de profils différents.
Voilà, et c'est quelque chose de naturel, quoi. Les gens font des retours et puis du coup échangent et améliorent les choses. Alors peut-être juste préciser la licence du logiciel. Alors rappelez d'abord que c'est pas parce que c'est un logiciel libre qu'il n'y a pas de licence, hein. Il y a toujours une licence attachée à un logiciel libre, enfin en tout cas dans la grande majorité des cas. Et pour que le logiciel soit libre, il faut que dans cette licence, on y retrouve les 4 libertés d'un logiciel libre. Donc ça c'était juste pour préciser, parce que parfois on entend le fait que les logiciels libres sont des logiciels libres de droit, c'est une erreur, c'est une vraie erreur. Et puis c'est pareil, j'en profite pour rappeler, alors même si on l'a encore une fois fait beaucoup sur cette antenne, qu'un logiciel libre ne veut pas dire gratuit. Hein. Évidemment que...
Oui, c'est pas parce qu'un logiciel est gratuit qu'il est libre.
Et c'est pas parce qu'un logiciel est gratuit qu'il est libre non plus. Donc il faut vraiment distinguer les deux termes. Évidemment, c'est importé de l'anglais où le terme free veut à la fois dire libre et gratuit. On a importé cette complication en français alors qu'on avait deux termes. Du coup, ça me permet peut-être de faire une transition sur le modèle économique de Garadine. Qui est-ce qui peut nous parler de ce modèle économique-là, des perspectives aussi?
Moi, je peux en parler. Du coup, alors pour revenir sur ta question, la licence, du coup, c'est la licence AGPL, qui est donc la licence
à peu près classique des logiciels libres, sauf qu'il y a une petite nuance, c'est que à partir du moment où le logiciel est modifié et installé sur un serveur, même si la personne qui utilise le logiciel n'a pas accès au code comme ça, la personne qui a modifié le code et a mis sur le serveur doit rendre disponibles les modifications. Donc c'est un peu une clause qui permet d'éviter que quelqu'un reprenne le logiciel, l'installe sous un autre nom, en faisant quelques modifs et le revende comme ça sans redistribuer les modifications. Donc là, le but, c'est vraiment d'inciter au partage des modifications qui auraient été faites sur le logiciel.
Oui, merci pour cette précision. Effectivement, c'est la licence AGPL quand on est sur un serveur. Donc c'était important, voilà, de le préciser. Donc alors AGPL, en anglais, ça veut dire... Tu peux nous le rappeler?
Alors c'est Afero General Public License.
Merci. Voilà, donc ça a été adapté pour les serveurs. Ça dérive de, voilà, la GPL, qui était pour le programme qui tournait sur un ordinateur en local.
Voilà, parce que pour un service web comme ça, le programme il tourne pas sur votre ordinateur, il tourne sur un serveur à distance. Donc c'est là la petite différence.
Très bien.
Et du coup,
sur le modèle économique, je te propose de faire une petite pause musicale avant d'évoquer le modèle économique. Ça te va?
Allons-y.
Allons-y, merci.
Oui, merci Laurence. Je reprends la parole donc pour vous annoncer la pause musicale. Nous allons écouter Drunk Blues par Captain et on se retrouve juste après. Bonne écoute sur Radio Cause Commune.
Cause Commune
93.1.
Matin n'était pas très frais, pas très serein, voire carrément mauvais. Le réveil débranché, c'était un mauvais signe. Essayer de se lever à défaut d'être digne. La soirée passée avait bien commencé. Des amis pleins les bras et une robe de soirée. Puis des bouteilles vidées et des souvenirs troublés. Elle ne savait plus comment ça s'était terminé. Elle vit toujours seule, la nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier. Comme une enclume, les pieds frigorifiés. Un cachet d'aspirine dans sa tasse de café. Elle n'était pas très fière d'être dans cet état. Elle avait dit hier, je ne ferai plus jamais ça. Voilà, c'est comme ça, elle a recommencé. Et que verront suffit à la faire plonger. La question qu'elle se pose, c'est comment renoncer. Éviter l'overdose, être enfin libérée. Elle vit toujours seule, la nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier.
Nous venons d'écouter Drunk Blues par Captain sur licence libre Creative Commons CC BY SA 4.0. Ce morceau est tiré du CD, du disque Flamme, qui est le premier disque officiel de cet artiste français qui vient tout juste de sortir, que vous pouvez acheter sur le site Bandcamp. On a mis la référence sur la page de l'émission. Donc si vous aimez cette musique et que vous voulez soutenir un artiste français qui publie sous licence libre, n'hésitez pas, ça peut être
un joli cadeau de Noël. Et je redonne la parole maintenant à Laurent qui a animé un échange sous le gestionnaire d'association Garadine. Laurent, à toi la parole.
Merci Isabella. Donc on reprend l'antenne avec José au téléphone, Boaz aussi au téléphone et puis Isabelle qui est avec nous en studio. Alors on était en train d'aborder la question du modèle économique de Garadine, donc logiciel de gestion d'association. Est-ce que Boaz, tu peux nous expliquer un petit peu comment est pensé le modèle économique, même si j'ai cru comprendre quand même que voilà, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour développer le logiciel, je me trompe?
Non, effectivement, c'est encore assez précaire, mais on va dire que ça s'arrange un peu. Donc le logiciel a été commencé en 2011, donc ça fait bientôt 10 ans. Et donc jusqu'à 2019, c'était sur mon temps libre. Et depuis l'année dernière, je suis au chômage, et donc je passe beaucoup plus de temps sur le logiciel. Et j'essaye d'inciter du coup les associations utilisatrices, particulièrement celles qui sont sur notre plateforme Cloud Garadine, si on veut, qui est garadine.eu. Donc on peut créer son compte sans rien installer et sans aucune connaissance technique. Donc les inciter à participer au financement du logiciel et du service. Ce qui a permis, du coup, depuis février dernier, si je dis pas de bêtises, de financer, du coup, la participation d'Isabelle, qui travaille sur la documentation de Garadine à hauteur d'une journée par semaine. Depuis ce moment-là, et normalement, si tout continue bien, à partir de février ou mars 2022, je pourrais aussi être enfin payé un petit peu, c'est-à-dire à peu près une journée par semaine pour travailler sur Garadine.
D'accord.
Donc c'est un modèle économique qui est basé sur la contribution libre, donc sur un don annuel d'un montant qui est choisi à l'appréciation de l'association, en sachant que si chacune des 4000 associations qui sont hébergées sur le service 10 euros serait déjà bien, mais on est pour l'instant à peu près à un tiers de cet objectif là sur l'année 2021, donc j'espère que ça va s'améliorer sur l'année 2022 et que aussi les associations qui utilisent le logiciel en auto-hébergement financeront aussi, parce que il y en a quand même beaucoup. Alors évidemment, vu que c'est un logiciel libre, il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien du tout, donc je ne sais pas combien d'associations utilisent Garadine en auto-hébergement, mais je pense qu'il y en a, quelques milliers. Voilà.
D'accord. Et parmi celles qui ne sont pas en auto-hébergement, donc qui sont hébergées sur les serveurs, il y en a qui ne contribuent pas, qui n'ont pas perçu forcément qu'il fallait aider le logiciel à se développer. Quelle est la proportion, si ça peut être dit, hein, peut-être que vous n'avez pas envie de le...
Non, il n'y a pas tout à fait. Moi, je suis tout à fait transparent. Alors, il y a à peu près 4200 associations inscrites. Mm-hmm. Environ 3600 qui sont actives dans les 12 derniers mois. Et là-dessus, il y en a à peu près 400 qui ont participé au financement dans l'année 2021.
Et c'est pas les plus grandes.
Oui, c'est pas beaucoup, hein. Donc on va encourager celles qui nous écouteraient par le plus grand des hasards à contribuer, parce que quand on regarde que le logiciel a commencé en 2011, le trajet est très très long, enfin je suis admiratif de la persévérance de l'équipe qui est penchée sur le logiciel depuis 2011, parce que il y en a qui auraient abandonné depuis très très longtemps, étant donné que tu nous annonces avec fierté que tu vas peut-être pouvoir être payé une journée par semaine l'année prochaine pour développer le logiciel. Voilà, on va pas faire du mirabilisme, c'est pas l'idée, mais en tout cas, oui, c'est beau de s'accrocher sur ce développement-là. Moi, je suis très reconnaissant. Bah,
c'est principalement moi, parce que le logiciel, j'en avais besoin pour mon association, et donc le développement s'est fait de manière bénévole jusqu'à l'année dernière, mais que maintenant, en fait, c'est surtout le fait que le service et que le nombre d'associations l'utilisant est quand même assez important. On a quand même... moi, je passe à peu près 2 heures par jour à répondre aux mails des gens. Donc, c'est quand même un temps qui commence à devenir conséquent au service des gens et qui peut pas continuer de manière bénévole toute la vie, quoi.
Bien sûr, et on peut même se dire, mais celles qui ne contribuent pas, finalement, ne se rendent pas compte que, par exemple, toi, tu dois louer des serveurs, tu as de l'électricité, donc ça veut dire que c'est même toi qui, quelque part, entre guillemets, ou l'association, met de leur poche, quoi. C'est quand même...
Oui, alors après, les serveurs, c'est pas grand chose. C'est vraiment un temps humain, et donc le temps humain, ça se paye, et surtout et la compétence aussi. Donc c'est surtout ça. Quand on voit le prix des services en ligne de gestion d'assaut concurrents, on va dire, les tarifs sont de l'ordre de 200, 300, 500 euros par an minimum, quoi. Donc c'est vrai que là, quand on voit des assos sur le service qui peuvent avoir des chiffres d'affaires entre guillemets, des recettes annuelles qui dépassent les 100 000 euros, je pense que je vais commencer à faire des petits mails pour dire aux gens que ça serait bien de contribuer, quoi.
Oui, je pense que c'est important de montrer effectivement ce que ça représente, parce que finalement les gens n'en prennent pas conscience. Moi, alors du coup, je peux peut-être faire un tout petit parallèle. Moi, je travaille au CMEA, ça a peut-être déjà été évoqué. On a un logiciel, c'est pareil, qui permet de collaborer, qui s'appelle Zurit, et dans lequel potentiellement on propose l'intégration de Garadine. Nous, le service Zurit qu'on fait payer annuellement, pour lequel c'est absolument minimaliste, c'est juste pour payer les serveurs et le développeur, et un tout petit bout de développement qui est à la Réunion, et donc il n'y a rien qui revient au CMEA, c'est déjà 70 euros par an, donc voilà, c'est vrai que c'est entre 0 et 70 euros, il y a beaucoup de marge de progression, et par rapport au nombre d'associations contributrices que tu évoquais, il y a de la marge de progression pour Garadine, je pense, quoi. C'est important de prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière, et c'est vrai que quand on est utilisateur, surtout quand c'est un logiciel libre, on se dit non, ça marche, ça fonctionne, je me pose pas de questions sur le modèle économique derrière, mais c'est important à montrer, quoi, ça me semble-t-il.
Voilà, ouais. Après le but de Garadine, c'est pas de devenir une grosse entreprise et d'avoir 20 personnes derrière. Le but, c'est de moi ce que je dis, c'est je suis un artisan du web. Donc je fais de l'artisanat, je fais un petit logiciel à mon rythme, dans mon coin tranquillement, à la vitesse où j'ai envie, et avec en accord et avec les demandes que les gens peuvent me faire. Et surtout, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation humaine, donc c'est pour ça que je suis très attaché à écouter les retours des utilisateurs du logiciel, et quand on me fait des demandes, j'essaye de comprendre le contexte de l'association derrière et comment elle fonctionne, et d'essayer de voir comment répondre à leurs besoins avec Garadine. Et donc c'est aussi la démarche que j'ai au niveau de l'interface et de la simplicité, c'est de me dire comme disait tout à l'heure Isabelle sur le problème des balances d'ouverture, si les gens y bloquent, c'est pas forcément que les gens ils sont trop bêtes pour comprendre, c'est peut-être que le logiciel il est mal conçu et que là il y a quelque chose à améliorer. Et donc moi c'est toujours la démarche que je vais avoir sur ce genre de problème, c'est si le problème se répète avec plusieurs personnes, c'est que probablement il y a quelque chose à améliorer, il faut réfléchir comment faire.
Ben merci pour ces précisions. Moi j'admire beaucoup cette modestie dans le logiciel libre qu'on retrouve assez couramment sur des projets comme ça, de ce type-là. Je trouve ça admirable. Voilà, on n'a pas toujours ça dans notre société où il faut écraser l'autre, faut gagner du pognon tous les jours un peu plus qu'hier. Enfin bref, donc moi je trouve ça plutôt sympathique comme projet, vraiment. Je me permets peut-être de passer... Alors tu l'as un petit peu évoqué justement, cette relation à l'utilisateur et à l'utilisatrice. Parce qu'on est dans la question du logiciel libre et donc du commun numérique, se pose la question de la gouvernance, qui est un petit peu répondue, mais comment est pensée et comment évolue la gouvernance du projet ?
Elle n'est pas... C'est pas une question très compliquée, parce que étant donné que je suis le seul développeur à travailler majoritairement, à part quelques contributions irrégulières, c'est moi qui décide, hein, j'ai pas. Mais comment ça fonctionne, ça fonctionne en fonction des demandes qu'on me fait et en fonction des retours que j'ai des utilisateurs sur les lignes de discussion, par chat, etc.
Oui, mais finalement, c'est on est en train de montrer qu'il y a une vraie gouvernance du projet par les utilisateurs. Même si, encore une fois, tu es un petit peu modeste sur en disant bah oui, c'est moi, je suis le seul développeur, donc c'est moi qui décide. Sauf que finalement, tu décides parce que tu as des échanges quotidiens avec les utilisateurs et les utilisatrices, que tu comprends pourquoi ça bloque, donc ce qu'il faut améliorer, etc. Donc on a une forme finalement de gouvernance partagée dans l'évolution des fonctionnalités. Je sais pas, Isabelle, tu veux compléter un peu?
Je compléterai à mon niveau, puisque moi je m'occupe effectivement aussi de répondre aux gens, de faire de temps en temps des rapports de bugs, mais pas souvent, et surtout de rédiger l'aide en ligne de Garadine, ce qui est extrêmement important. Et je pense que tous les gens, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui font du logiciel libre, c'est important, pas uniquement pour aider les gens, mais en termes de communication. Parce qu'on va tomber dessus au hasard d'une recherche, on va se dire, tiens, ce logiciel, il fait ça, pof, peut-être que je le prends ou pas. Donc, sur l'aide, c'est pareil. Je veux dire, il y a des pages d'aide que j'ai faites parce qu'il fallait les faire, normal, et puis d'autres que j'ai faites parce qu'il y avait des demandes, il y avait des questions sur les balances d'ouverture, sur comment je démarre dans Garadine, où est-ce que je mets mon argent, enfin en compta évidemment. et ce genre de choses. Donc il y a de l'aide aussi. J'ai fait à un moment donné une page que j'avais faite au moment de l'incendie d'OVH, parce qu'il manquait une page sur la sauvegarde. Alors là, une page détaillée expliquant pourquoi c'était utile, comment la faire, etc., etc. Donc, et ça, c'est très, très important. Je crois que c'est un petit peu l'intérêt de logiciels comme Garadine, c'est qu'on est quand même très près des gens qui utilisent le logiciel. Et comme ils s'adressent à la liste d'entraide ou à la liste support quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors déjà sur la liste d'entraide il peut y avoir d'autres gens qui répondent, ouais. Ça c'est bien en compta parce qu'il y en a qui sont assez trapés en compta, donc du coup ça aide pour faire d'autres pages d'aide et ainsi de suite, ça auto-alimente en fait l'information et la documentation sur le logiciel. Et en plus, parce que ça donne aussi, il y a des choses que j'avais écrites en me disant, tiens, il y a cette question-là, il n'y a pas la fonctionnalité, j'appuie sur un bouton et ça fait ça dans le logiciel, mais comment je peux trouver moyen de faire ça? Donc je citais le budget prévisionnel, mais il y a d'autres exemples.
Très bien, oui, alors effectivement, on retouche encore une fois cette vertu du logiciel libre qui fait que la communauté s'auto-alimente, quoi. Moi je trouve ça extraordinaire quand sur une liste, finalement, c'est pas le responsable du projet ou le développeur qui répond systématiquement aux questions, mais justement les autres utilisateurs ou utilisatrices qui ont déjà rencontré le problème, qui aident les nouveaux arrivants. Moi je trouve ça très vertueux en fait comme fonctionnement. Donc merci pour cet éclairage. Alors si on devait peut-être préciser un peu pour quelles associations Garadine était le plus adapté. Est-ce que José, tu peux nous éclairer?
Oui, très bien, je peux tout à fait apporter une réponse. Alors, de mon point de vue, ce sont toutes les associations, particulièrement les associations, justement, un peu comme je vais l'évoquer tout à l'heure, qui, comme il existe beaucoup en France, le club de foot, enfin, etc. Peut-être les limites que je souligne ici, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de gestion de TVA, il n'y a pas de liasse fiscale. Il n'y a pas de rédaction du salaire, mais pour les salaires, on peut faire appel à des partenaires comme la SAMDA pour le milieu agricole ou comme l'URSSAF pour d'autres. Et donc, effectivement, pour moi, comme ça, je dirais qu'il n'y a pas de limite dans les associations. Il a été dit tout à l'heure, et c'était très juste, qu'effectivement, parfois, les comptables utilisent des outils. Alors, soit parce qu'ils ont des abonnements, soit parce qu'effectivement, ils ont une préférence avec un outil professionnel propriétaire, hein, pour être à l'opposé du logiciel libre et open source que vous avez bien expliqué. Et comment, il n'empêche quand même qu'un outil comme Garadine, ça permet effectivement pour toutes les associations d'utiliser ce système, de gérer son association.
Merci José. Alors du coup, on a évoqué le nombre d'associations qui utilisent les serveurs de Garadine. On ne connaît pas le nombre d'associations qui s'auto-hébergent sur le logiciel. Je regarde un petit peu les questions qui ont été posées, mais finalement, les budgets les plus importants qui ont été consolidés avec Garadine, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous donner quelques chiffres finalement pour qu'on puisse appréhender justement et consolider un peu ce que vient de nous dire José?
Alors ça, ça va dépendre, parce que effectivement, toutes les associations qui sont auto-hébergées, on n'a pas de données. Mais par contre, sur garadine.eu, le plus gros budget, ça doit être dans les 600 000 euros. Voilà, après, ouais. On a des associations avec plus de 6 000 membres aussi.
Oui, d'accord. Donc ça commence à être des belles associations là. Hein, quand on a un chiffre d'affaires d'un demi-million et puis plus de 6000 adhérents, donc là, voilà, ça montre un peu, en tout cas, le plafond. Alors c'est pas le plafond haut, hein, puisque on peut peut-être sans doute aller au-delà, mais ça donne bien une idée de où on peut aller. Isabelle.
Ah oui. Alors on a aussi des associations étrangères. On a comme ça une association belge. Alors comment je le sais? Parce que sur la liste d'entraide, justement, on a comme ça une association belge qui nous a demandé une fois, est-ce qu'on a un plan comptable, un exemple de plan comptable belge? Parce que, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, on peut ajouter des plans comptables à Garadine. D'ailleurs là, j'en ai ajouté qui sont le plan comptable général pour les micro-entreprises, le plan comptable des copropriétés et le plan comptable des... je ne sais plus comment ça s'appelle, les genres, ce qui a les CE, comités, CHSCT, autres, tout ce qui a remplacé tout ça. Alors, on a eu ça. On a aussi eu des gens qui nous ont dit, ah ben, je voudrais comment on peut traduire Garadine, le logiciel. Donc, ça veut dire qu'une association italienne ou c'est une autre qui était hispanophone qui veut traduire le logiciel, ça veut dire qu'elle l'utilise. Donc, elle va intégrer aussi son plan comptable, etc., etc. Donc c'est ça aussi, je veux dire, on est par rapport à d'autres logiciels plus fermés. Mmh. C'est beaucoup plus ouvert sur des tas d'autres gens.
Ça se fait en fonction des besoins, quoi. Oui. Ça c'est voilà, c'est exactement ça. Là où un logiciel propriétaire ne verrait pas de marché en se disant bah non, ça concerne que trois personnes, on va pas le faire. Là où il y a finalement un besoin, trois personnes, bah, elles vont peut-être le faire. Quoi. Ça fait une sacrée différence aussi. Le temps file, je passe en revue les questions qu'on s'était un peu listées et je vois éco-conception. Est-ce que Boas, tu veux un peu évoquer cette logique-là vis-à-vis de Garadine?
Oui, alors c'est un point aussi qui me semble important. Alors moi, les retours des professionnels de l'informatique, on va dire, sur Garadine, ça a souvent été... Ah, ça fait vieillot, nanana, un truc comme ça. Oui, si on veut. Alors moi, ce que j'aime bien dans la conception logicielle, c'est d'avoir des interfaces qui vont être stables. C'est-à-dire que ça va pas changer tous les ans et on va pas devoir tout réapprendre les habitudes qu'on a prises. Et donc j'aime bien les choses qui ne changent pas trop. Et donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect technologie, au niveau technologie, on est sur des technologies très simples et très légères, donc on n'a pas des choses qui vont être très lourdes à charger, on a des pages qui sont relativement légères, très rapides, avec très peu de JavaScript, donc très peu d'utilisation processeur au niveau du navigateur qui va utiliser le logiciel. Et ça, c'est des choses que, au niveau de l'industrie informatique, on va dire, c'est relativement mal vu. Moi, le retour des utilisateurs que j'ai, c'est c'est vachement bien, oui. C'est simple, c'est rapide, ça fonctionne, ça mouline pas, ça fait pas ramer ma machine. Et voilà, moi, c'est des retours que j'aime bien avoir. Et effectivement, derrière, c'est parce qu'il y a toute une conception qui fait qu'on va essayer de limiter au maximum, que ce soit l'empreinte d'utilisation du serveur, que ce soit aussi l'empreinte au niveau du navigateur de la personne qui va utiliser.
D'accord, donc c'est vraiment pensé pour la sobriété numérique, et ça c'est une bonne chose aussi à une époque où on parle on sort de la COP26, me semble-t-il. Très bien. Est-ce que... vous pouvez peut-être nous évoquer les plus grandes difficultés, alors si on en a évoqué une déjà tout à l'heure, hein, par rapport à finalement la balance d'entrée dans le logiciel, est-ce que vous avez d'autres difficultés en tête que les utilisateurs ou utilisatrices auraient rencontrées et que du coup vous avez pu résoudre ou qui sont encore finalement bloquantes pour certaines associations? Qui est-ce qui veut prendre la parole?
José peut-être.
Alors, je peux rapporter effectivement une expérience personnelle. L'élément, ce qu'on appelle activité cotisation versus tarif. C'est une approche. Quand on analyse, c'est très très bien fait, mais c'est vrai qu'en première approche, faut bien regarder le système. Et moi, à titre personnel, quand je l'ai mis en place dans mon association. Justement, c'est l'équipe de Garadine qui m'a aidé à bien mettre ça en place. Donc ça, c'est vrai que je trouve parmi les prises en main, peut-être un point vraiment à regarder. Maintenant, comme ça a été souligné tout à l'heure, la notion effectivement de reprise de compte aussi, c'est quelque chose d'assez important et il faut bien regarder le sujet.
Oui. Oui, c'est intéressant parce que ça reboucle aussi avec la discussion qu'on avait en entrée de sujet avec Isabelle sur la cotisation, l'adhésion. Quand les associations ne sont pas claires elles-mêmes vis-à-vis des termes, vis-à-vis de comment elles définissent les choses, du coup, la traduction dans un logiciel est encore plus complexe. Et c'est vrai que ça fait partie souvent des accompagnants que de clarifier ça pour pouvoir justement le traduire et le mettre en œuvre dans le logiciel ensuite.
Alors, il y a une autre difficulté et... Boas tout à l'heure parlait des catégories, c'est-à-dire qui donne des droits sur Garadin, c'est-à-dire rien d'autre. C'est pas lié à autre chose, c'est pas lié à un type de projet, etc. Et ça, les gens ont un peu de mal à comprendre, parce qu'effectivement, on ne peut être que dans une catégorie, ce qui veut dire que on va avoir le droit de faire ça, ça, ça et ça ou pas ça. Et ça, j'ai vu beaucoup de passer de demandes là-dessus. Alors bon, mais je vous avoue que je ne sais pas trop comment, une fois qu'on a fait une page d'aide très claire, là, enfin qui me semble claire, là je ne vois pas trop comment aller plus loin. Parce que c'est quand même une dimension plus informatique qu'autre chose. Et ça...
Bien sûr, et celui qui n'a pas beaucoup de droits ne voit pas certaines icônes, certains menus, donc du coup il ne peut pas savoir que ça peut potentiellement exister. Enfin c'est vrai que c'est une complexité...
Et quand on n'a pas de culture informatique, c'est pas forcément évident à comprendre, pas à saisir comme ça d'entrée de jeu.
D'accord, donc ça fait partie des éléments à accompagner pour les utilisateurs et les utilisatrices. On va arriver à la fin.
Je me permets d'intervenir là, oui. parce que ça a été aussi un débat un peu, non pas chez nous, mais il y a eu un peu des échanges. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les groupes, ça se trouve aussi. Et c'est vrai que on a maintenant un moyen de pouvoir voir les choses sous un autre angle, du point de vue des utilisateurs. Je ne parle pas du point de vue technique, mais du point de vue des utilisateurs. Parce que souvent, ce que veut l'utilisateur, lui, c'est pas trop la problématique de ses droits d'usage, parce qu'en général, quand je parle de l'utilisateur, c'est les dizaines ou les centaines de membres. Je parle pas vraiment des gens qui font de l'administration. Et le fait ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir se retrouver dans des groupes. Par exemple, imaginons que vous êtes dans votre association, vous êtes un expert, enfin vous êtes un groupe qui travaillait sur LibreOffice ou sur Ubuntu, qui est un système d'exploitation. Eh bien, le fait de pouvoir faire des groupes qui permettent de regrouper les gens justement derrière cette dénomination, ça permet aux utilisateurs de mieux se reconnaître. Et c'est un élément de synergie qui est très intéressant.
Merci pour cette précision. Isabelle, il va falloir conclure chacun, donc je vous laisse la parole chacun une minute pour conclure, comme ça on va redonner la parole à Isabella.
Est-ce que je me permets de commencer peut-être? C'est plutôt côté utilisateur, je vous laisse pour l'aspect plutôt opérationnel et technique. Ce que je voulais souligner aussi ici, c'est avec Garadin, au-delà des aspects techniques, il y a vraiment deux choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est d'abord la possibilité de valoriser le bénévolat, ce qu'on appelle le bénévolat. Je ne vais pas revenir dessus, ça a été dit. Mais c'est vraiment un élément de dynamisation des équipes, parce que les équipes eux-mêmes peuvent se prendre en route, en charge, par rapport au bénévolat de l'association, et c'est une bonne chose. La deuxième chose qui est vraiment très importante à mon point de vue, c'est justement l'hébergement qui est proposé par Garadin. Et c'est quelque chose donc que je recommande à tout le monde, particulièrement pour la majorité des associations qui n'ont pas de ressources justement informatiques, que ce soit un administrateur système ou que ce soit tout simplement l'hébergement. Et en plus, grâce à l'hébergement Garadin, on dispose immédiatement d'un nom de domaine, parce que ça c'est souvent des questions qu'on nous pose, mais comment fait-on pour avoir un nom de domaine? Eh bien là, on a immédiatement un nom de domaine. La maintenance, tout ce qui est mise à jour, etc., tout ça, l'association n'a pas à s'en occuper, donc elle n'a pas besoin d'avoir un administrateur système. Et puis, vous avez toute l'aide, c'est très, très, vous avez toute l'aide qui est quand même disponible, ça a été dit, je le redis pas, c'est quand même extrêmement important. Et donc, la conclusion, et je vais m'arrêter là, c'est que finalement, Garadin, pour moi, c'est la figure de proue de ce qu'on appelle la transformation numérique des associations. Et au-delà de ça, donc la transformation numérique à l'aide des logiciels libres open source qui ont une philosophie qui est plus, beaucoup plus en accord avec justement, qui est plus aligné sur la philosophie
associative, la valeur des associations en général.
Merci. Voilà, je me suis permis. Je pense peut-être que tu feras une annonce, mais donc il se trouve que Wazux organise une conférence sur.
Isabella fera une annonce à la fin de l'émission.
D'accord.
Il nous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes chacun, Isabelle et Boaz. Isabelle, 30 secondes.
Je peux rien dire de plus, sauf que Garadin Plus respecte parfaitement le RGPD.
Ah oui, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais voilà, on avait déjà évoqué le fait que il y avait voilà, c'était respecté. Boaz, pour la conclusion.
Ouais, bah merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, pour les gens qui seraient intéressés, vous pouvez essayer le logiciel directement sur le site garadin.eu. Et n'hésitez pas à faire des remarques, des retours.
Oui.
Voilà, on est toujours ouvert à prendre des suggestions et des idées. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour votre participation, avec des conditions au début qui étaient un peu complexes, mais en tout cas je pense que oui, tout ce qu'on a pu échanger, ben, ce sera précieux pour le podcast de Libre à vous. Et je repasse la parole à Isabella.
Merci beaucoup Laurent, merci à tous nos invités. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Il y aura une nouvelle réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April ce jeudi 18 novembre 2021 de 17h30 à 19h30 en ligne. À suivre le même jeudi, soirée de conversation autour du libre consacrée à Unohost, donc hôte hébergement. Ce sera à partir de 20h30 et jusqu'à 22h30 toujours en ligne. On en parlait tout à l'heure lors du sujet principal de l'émission. Il y a une conférence proposée par l'association Wazux qui a pour titre Animation et gestion des associations avec Garadin. Elle aura lieu samedi 20 novembre de 9h30 à midi en ligne. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel libre qui permet de gérer les associations, n'hésitez pas à participer soit en direct à la conférence en ligne, mais je sais que normalement elle sera disponible aussi par la suite, donc vous pouvez aussi la récupérer plus tard. Et puis je vous rappelle, comme d'habitude, vous pouvez consulter l'agenda du libre pour les autres événements en lien avec le logiciel libre. Notre mission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Marie-Odile Morandi, Laurent Costi, Boaz, Isabelle Dutailly, José Roland, et aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne. Merci également à l'équipe des personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Linguin, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet ou podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web April.org toutes les références utiles ainsi que sur les sites et encore non, c'est le nouveau site livreavoue.org, désolé. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@livreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la Radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 23 novembre 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le gestionnaire de contenu web Libre Spip, le site web de l'émission est géré avec Spip. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 23 novembre et d'ici là, portez-vous bien.